Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 479, nous sommes en septembre 2022, je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de frais de livraison obligatoires pour Amazon, parce que ça suffit, et puis aussi de TikTok et d'Instagram versus Biril, quelle est la bonne solution, spoiler, il n'y en a pas, de The Follower, qui vous suit un petit peu partout dans les lieux publics et qui vous retrouve d'après vos photos Instagram, on va vous expliquer ça. Et je dis « on », c'est pas juste moi, c'est aussi Chloé Wattier qui est là avec moi. Salut Chloé, comment vas-tu ?
Salut Patrick, écoute, ça va très bien. On est reparti pour une nouvelle saison, là, donc encore fraîche et dispo. Je sais pas si je dirai la même chose dans un mois, mais voilà, on a encore la patate.
C'est bien. Au moins une personne dans cette émission qui est fraîche et dispo. Parce que je t'avoue que moi, je suis moyennement frais, relativement dispo, mais c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire l'émission. On avait des échanges sur Twitter. Alors, comment ça va ? Les enfants, c'est bon, ça va pouvoir aller et tout. Mais donc, c'est un peu un moyen de par avance, de m'excuser auprès des auditeurs si je ne suis pas au niveau de forme qu'ils attendent. Dans leur rendez-vous tech.
Mais oui, mais de toute façon, là, tout le monde est malade en ce moment, donc c'est normal, il fait froid.
Ouais, exactement. Tout le monde, et ça inclut mes enfants. Donc, oui. Compliqué le début de semaine, là. En plus, ma femme est en vadrouille, enfin, en voyage. Mais bon, j'ai fait un test, c'est pas le Covid, donc ça va, c'est essentiel. Je disais sur Twitter, tu sais, j'adore mon boulot. Je suis hyper content d'avoir des enfants, mais il y a un truc que je regrette de ma vie d'avant, c'est le fait de pouvoir appeler ton manager et dire « Ah, j'ai crève, c'est pas possible, je vais rester à la maison, je peux pas venir aujourd'hui. » Ça arrive pas souvent, on est sérieux, mais ça, c'est un truc, si vous êtes en CDI, que vous aimez pas trop votre boulot, que vous êtes, que vous êtes un petit peu, vous dites « Ah, ça serait bien de faire ci et ça », oui, peut-être. Mais au moins, profitez de cet aspect, parce que moi, j'aurais bien voulu.
Ah bah oui, quand on est indépendant, tout de suite, c'est plus compliqué de s'arrêter.
Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont aussi indépendants et qui se disent « Ah oui, je connais ça,
t'as la crève. » Oui, j'imagine très bien. Moi, ça va, moi, je suis dans la team CDI.
Ouais.
Même si j'ai la chance, d'avoir une constitution incroyable, mais je tombe très, très peu malade. En tout cas, suffisamment peu pour ne pas avoir à poser de jours d'arrêt maladie. Donc, je touche du bois pour que ça continue comme ça. Mais oui, je comprends la difficulté que ça peut être pour les indépendants qui aimeraient bien s'arrêter. Mais en fait, ce n'est pas possible parce que s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent.
Exactement.
Donc, force à vous les indépendants.
Je t'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi crevé. Quand j'avale quelque chose, ça me, tu sais, c'est les couteaux dans la gorge. J'ai du mal à avaler,
fait deux jours que ça dure.
D'ailleurs, je me demande, tu me dis, je suis en CDI, tout se passe bien, machin. Je me demande si le télétravail, on va parler des sujets de la semaine, mais je me demande si le télétravail, ça n'a pas un petit effet pervers à ce niveau-là.
Ah, si.
Quand t'es un peu malade, tu dis, ça va, je vais bosser quand même.
Quand t'es un peu malade, mais pas suffisamment, et tu te dis, ça va, j'ai pas non plus 38 de fièvre, donc je peux quand même télétravailler un petit peu. Et voilà, finalement, tu prends pas une journée off, tu télétravailles quand même parce que tu as cette possibilité-là depuis la maison. Donc, tu ne contamines pas tes collègues, mais tu continues à travailler.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Clairement, moi, je prends le télétravail tous les jours plutôt que le fait d'être obligé d'aller au boulot, mais ouais, un petit effet pervers.
D'ailleurs, on va faire vite l'émission, comme ça, on va pas te... tu vas pas souffrir trop longtemps.
Heureusement qu'il y a mon beau-père qui est là pour s'occuper de la petite qui est malade, sinon vous auriez eu les babillages de ma fille en même temps que l'émission. Mais bon, là, ça va. On a peut-être qu'on sera interrompu, mais dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. Et d'ailleurs, si cette émission est là, c'est aussi grâce aux Patriotes, non seulement grâce au courage des indépendants et à l'amabilité de Chloé d'être avec nous aujourd'hui, c'est aussi grâce aux Patriotes comme Régis Ambalek qui est devenu Patriote la semaine dernière. Merci beaucoup à toi, Régis. Donc, c'est grâce à toi que, bah justement, si je travaille, je peux avoir des sous-sous. Donc, un grand, grand merci. Et bien sûr, les producteurs Rémi X et Derek Herbe. Je me demande s'il faudrait que je propose aux producteurs un sujet favori qu'ils veulent sponsoriser plus que les autres, parce qu'il y a des sujets intéressants aujourd'hui. Et justement, on va se lancer tout de suite. Alors, toujours pas de jingle, j'ai juste pas la force aujourd'hui. Donc, voilà, la fête des anti-jingles du Discord continue. Mais le premier sujet, c'est cette nouvelle loi, ou plutôt ce changement d'une loi existante, qui va obliger Amazon et, bon, pas que Amazon, mais essentiellement Amazon, à facturer la livraison des livres que vous achèterez 3 euros. Et c'est une loi qui fait suite, en fait, à une loi qui avait été votée il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement, mais en gros, qui disait on ne peut pas faire la livraison gratuite. Et Amazon avait contré... parce que, bon, pour le contexte, hein, pour que vous compreniez bien, le problème est évidemment celui qui oppose Amazon, le conflit qui oppose Amazon aux librairies indépendantes, ou plus ou moins indépendantes, qui ne sont pas des gros mastodontes de la livraison, y compris de la livraison de livres, puisque la livraison gratuite faisait que Amazon pouvait livrer moins cher, et ça revenait parfois même... Enfin, le prix du livre est fixé, mais ça revenait... C'était beaucoup plus pratique pour certains de se faire livrer, et quand c'était pas cher du tout de se faire livrer, que d'aller dans sa librairie locale. Et du coup, ça pose un danger existentiel aux librairies, aux commerces de proximité de ce type. Et donc, l'État avait déjà fait passer une loi qui imposait à Amazon de faire payer la livraison, sauf que Amazon le faisait payer 0,01 euro, donc 1 centime d'euro. Donc évidemment, on s'en était bien gossé dans certains milieux au moment du passage de la loi, parce que la loi était passée, mais Amazon arrivait à la détourner. Et bien là, la loi impose 3 euros par livraison, en dessous de 35 euros. Elle peut être gratuite si on atteint 35 euros de facture. Et je continue à répéter Amazon, hein, mais ça vise tous les services de livraison de ce type. La Fnac est concernée aussi, j'imagine.
Oui.
Et le truc, c'est que, visiblement, personne n'est content, c'est-à-dire que les libraires ne sont pas contents, ils auraient voulu que ça soit plus. Amazon n'est pas content parce qu'ils vont devoir faire payer ça. Les utilisateurs, enfin les acheteurs ne sont pas contents parce qu'ils vont payer plus sur Amazon. Et comme on le dit souvent, c'est le signe d'un consensus réussi. Quand personne n'est vraiment content,
quand aucun intérêt n'est content, c'est-à-dire qu'on a peut-être trouvé la meilleure solution.
C'est ça.
Mais ouais, non, en fait, c'est un dossier extrêmement complexe. Parce que comme tu disais, donc la loi qui avait été votée, donc c'était sous le gouvernement, c'était sous Hollande, la loi qui imposait des frais de livraison pour les livres, bon, il y avait quand même un énorme trou béant qui était qu'il ne fixait pas un minimum de prix de la livraison. Donc là, on vient corriger ce problème en disant que tout le monde, parce que là, on parle beaucoup d'Amazon, mais ça concerne aussi la Fnac, mais ça concerne aussi en fait les sites des librairies, des libraires indépendants, parce que comme vous le savez, depuis le Covid, ils se sont tous un peu mis à la page et maintenant, ils permettent d'avoir de la livraison à domicile. Et le nœud du problème, c'est que les libraires, ils payent le tarif plein pot auprès de la Poste. Donc, quand ils vous livrent un livre chez vous, quand vous dites je veux faire une commande de livre de mon libraire à mon domicile, le libraire paye en moyenne, je crois, 7 euros. Donc, ce qui est quand même énorme de sa poche, il met 7 euros. Et comme il sait que 7 euros, ça va quand même faire... les gens vont pas vouloir payer autant, il va mettre des frais de livraison un petit peu moindres. Et en fait, ce que voulaient les libraires, c'est de rétablir une sorte d'équilibre en disant ce n'est pas juste que nous, on soit forcés de facturer à nos clients, des frais de livraison, alors qu'à côté, Fnac et Amazon proposent des frais de livraison à 1 centime. Donc, c'était l'objet, en fait, de cette loi, c'était de dire, maintenant, tout le monde facture les mêmes frais de livraison. Et côté libraire, eux, ils souhaitaient des frais de 4,50 €. Donc, pas monter jusque 7 €, mais s'en approcher quand même pour que le manque à gagner pour le libraire ne soit pas non plus immense. Et évidemment, côté Amazon, on a mis en avant le côté pouvoir d'achat et dire, mais attendez, il y a plein de personnes en France qui n'ont pas de librairie à côté de chez eux. Ils sont dépendants de nos services pour avoir accès à la culture. Donc, ce n'est pas juste de leur imposer des frais. Et de rendre plus cher l'accès aux livres. Et ça, en fait, ce sont des arguments. En fait, des deux côtés, ce sont des arguments qui s'entendent parfaitement. Et c'est pour ça que le débat est très compliqué, en fait, de se positionner. Alors oui, c'est sûr que là, bon, on arrive à un compromis. Donc, on coupe la poire en deux, bim, on met 3 €, sachant qu'il y a encore plein de détails qui ne sont pas encore résolus. Ça, ce sera dans le décret d'application. Parce que, par exemple, la loi dit, au-delà de 35 € d'achat, la livraison peut passer à 1 centime. Mais c'est 35 € d'achat de quoi ? Est-ce que ce sont des achats de livres ? Ou est-ce que je peux rentrer mon panier Fnac ou Amazon d'autres produits pour faire sauter ces frais de livraison ? Ça, ce n'est pas encore très clair. Il y a aussi la question de quid des abonnés Amazon Prime. Est-ce qu'ils vont quand même devoir payer les frais de livraison de leur livre alors qu'ils sont déjà abonnés Prime ou pas ? Ça, c'est vraiment des questions qui restent encore non résolues. Et ça, ce sera dans le décret d'application qu'il faut regarder avec attention parce que ça risque de changer beaucoup de choses pour les utilisateurs d'Amazon. Voilà. Est-ce que oui ou non, ils seront concernés par ces hausses et comment ça va se passer concrètement, cette histoire de 35 € de panier ?
C'est marrant parce que cette question pour Amazon semble, enfin elle est importante évidemment, mais elle est devenue tellement accessoire dans leur volume de chiffre d'affaires parce qu'ils vendent de tout aujourd'hui, mais ils ont commencé vraiment, d'ailleurs Amazon s'appelle comme ça parce que les arbres morts font du papier qui font des livres, j'imagine que c'est de là que ça vient. mais aujourd'hui, bon, les livres ne représentent pas une énorme partie de leur business, si je ne me trompe pas. Alors que pour les librairies indépendantes, évidemment, c'est... Alors, je ne sais pas si on exagère en disant que c'est une question de vie ou de mort, mais on est peut-être, en tout cas, dans un problème qui est sérieux pour leur chiffre d'affaires.
Clairement, parce qu'on a quand même la chance en France d'avoir un tissu de librairie qui est quand même très dense, très fort, et c'est parce qu'ils sont protégés par la loi du prix unique. Qui fait que vous vendiez sur Amazon, Fnac, Carrefour, Leclerc ou dans la librairie du coin, le prix du livre est strictement le même. Parce que ça, c'est vrai qu'on entend souvent, genre « non, mais je l'ai acheté sur Amazon parce que c'est moins cher ». En fait, c'est faux. Si vous l'achetez moins cher, votre livre sur Amazon, c'est parce qu'il n'est pas neuf, parce que c'est un livre d'occasion. Mais sinon, le prix est censé le même partout. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour garder cet avantage que cette loi est là, parce qu'on a quand même, on a la chance d'avoir beaucoup de librairies
en France. Garder, et après, voilà. C'est ça, c'est pour garder un tissu de librairie actif.
Actif, oui.
Et c'est vrai qu'il y a des produits qui sont moins chers que le prix conseillé ou que le prix qu'on peut trouver ailleurs pour les DVD, les Blu-ray, les jeux vidéo, etc. Mmh. Sur Amazon, ils peuvent vendre moins cher. Pour les livres, c'est pas le cas. Ils n'ont pas le droit. Et c'est marrant parce qu'on a des restes de conversations et de discussions philosophiques presque entre le petit commerce de détail indépendant et la grande distribution qui ne s'appliquent pas tout à fait à Amazon dans les mêmes conditions, ce qui vient compliquer les discussions là encore parce que ce qu'on dit souvent, c'est que la plupart des produits culturels sont vendus dans les supermarchés ou en tout cas l'étaient peut-être il y a encore quelques années. Et le problème des supermarchés et des hypermarchés de la grande distribution, c'est que ça appauvrit l'offre parce qu'ils vont vous vendre les trucs qui se vendent le mieux, mais on ne peut pas y trouver les produits un petit peu moins populaires qui font la richesse de l'offre culturelle. Or, sur Amazon, c'est presque le contraire parce qu'on va trouver absolument tout et généralement, les librairies sont très bien fournies, les librairies qui sont que librairies. Mais on ne peut pas dire qu'Amazon n'offre pas tous les produits en question. Donc, et puis, il y a des endroits qui n'ont pas de librairie à côté. Alors, ça les arrange bien, Amazon, de dire un truc comme ça, mais c'est quand même un argument qui peut s'entendre. Hein.
C'est un argument massue pour eux. C'est un argument massue. C'est de dire... Et là, je voyais en fait les réactions, parce que les articles qui ont été publiés, ça a suscité beaucoup, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et beaucoup, c'était « désolé, mais moi, la librairie la plus proche, elle est à 20 km. Je ne vais pas faire 20 km pour acheter mes livres et je préfère les commander sur Internet. Et du coup, bah, je suis dégoûtée de devoir payer 3 euros pour me faire livrer des bouquins. Alors qu'avant, c'était gratuit, entre guillemets. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu argument contre argument parce que du côté de la librairie indépendante, ils mettent en avant des données qui montrent qu'en fait, les acheteurs de livres sur Internet sont déjà aussi des acheteurs de livres en librairie. Ce sont en fait surtout eux. Qui achètent sur Internet. Donc, grosso modo, l'idée, c'est revenez en librairie, enfin, continuez d'acheter beaucoup en librairie parce que de toute manière, vous êtes déjà client chez nous. Et que l'idée du petit consommateur de livres qui ne passe que par Amazon ou que par Fnac serait une sorte d'illusion qui, en fait, ce profil consommateur n'existerait pas. Mais là aussi, ce qui est intéressant maintenant du côté des libraires, c'est que, bon, ils ont perdu sur le côté, il faut mettre des frais très élevés et aussi, ils ne souhaitaient pas qu'il y ait de rabais au-delà d'un certain seuil d'achat, ils voulaient que ce soit 4,50 € et c'est tout, même si on achète pour 100 € de livre, c'est que maintenant ils portent, et je pense qu'ils auraient dû faire ça dès le départ, c'est ils portent le combat du côté de la Poste pour demander à ce que les prix que leur facture la Poste pour expédier des livres soient baissés. Parce qu'ils ont bénéficié de ça pendant la pandémie, pendant le Covid, c'était parmi les aides à la librairie, ils ont eu droit à des tarifs très très réduits du côté de la Poste. Et donc, l'idée, ce serait de pérenniser ça. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver ? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, c'est de se dire, on va plutôt demander des efforts du côté, de qui nous demande de l'argent, en fait, en tant que libraire ? C'est la Poste. C'est la Poste qui demande beaucoup d'argent pour livrer les livres. Amazon, ils ont la puissance financière pour se permettre de dire, nous, on offre les frais de livraison. Parce que ils ont une puissance financière phénoménale, ils peuvent s'autoriser à se dire ça nous coûte 7 euros, mais on vous les offre. Le libraire du coin ne peut pas se permettre de faire ça.
D'ailleurs, il y a sans doute une puissance financière qui permet de négocier les tarifs aussi. J'avais un autre article prévu pour un peu plus bas, mais je vais le mentionner maintenant. Amazon Air, qui est la société de fret aérien d'Amazon, est passée de 194, enfin, ils avaient en début d'année environ 180 avions par jour. Ils ont encore augmenté, ils sont à 194 avions par jour aujourd'hui pour Amazon, alors dans le monde, etc. Mais les frais sont, enfin, les échelles sont clairement pas les mêmes. Quand on a une société qui affrète 200 avions par jour pour ses transports de livraison et de marchandises, oui, clairement, on parle pas de la même chose. Alors après, on pourrait discuter, est-ce que ça vaut le coup d'être, est-ce que ça vaut vraiment sociétalement la peine de protéger les librairies et les commerces de proximité? Je pense que c'est un débat qui, moi, je pense que oui, mais c'est un débat qui pourrait avoir lieu. Mais c'est ça, au final, la question de fond. Est-ce qu'on veut protéger les commerces de proximité ? Mais moi, même si je ne les utilise pas énormément, je pense que oui, au niveau de choix de société, c'est important d'avoir un tissu social de ce type-là. On ne peut pas, on extrapole, mais une société où on aurait urbainement que des gros centres de traitement qui vont vous envoyer vos trucs en livraison et on n'aurait pas nos petits centres de proximité, enfin nos commerces de proximité, je pense que c'est moins, ça a moins de charme, on va dire.
Ça se passe comment en Finlande ? C'est en Finlande que tu vis, c'est ça ?
Oui, alors en Finlande, c'est compliqué parce que moi, je suis vraiment à la campagne. Moi, je suis dans le cas des gens qui réagissent, tu vois, aux articles dont tu parlais. Moi, je suis vraiment à la campagne et les livraisons sont essentielles. Ça, c'est clair. On a la ville la plus proche est à 30 minutes et c'est une petite ville de quelques milliers d'habitants. Donc, il y a deux supermarchés et voilà. Mais on a une bibliothèque dans le petit village d'à côté qui compte 500 habitants. On a quand même une bibliothèque et on y tient. Donc, mais pour nous, la livraison est importante. Ça, c'est sûr.
Et des librairies, il y a un tissu de librairies indépendantes en Finlande ou c'est que des gros réseaux ?
Écoute, tu sais, en y réfléchissant maintenant, j'ai l'impression que je n'ai jamais vu une librairie indépendante, même quand j'habitais à Helsinki. Ouais. Alors qu'en France, tu en vois quand tu marches, tu vois ici ou là une librairie dans ton quartier, quand tu es dans une grande ville. En Finlande, j'en ai pas vu. Il y a des grosses librairies, mais pas des petites. Donc, ouais.
Donc voilà, la différence entre quand on protège un secteur et où j'imagine qu'en Finlande, ils n'ont pas ce type de loi. Et donc voilà, le résultat, tu as beaucoup moins de petits commerces de livres et tu dois passer soit par les grosses chaînes ou directement supermarché et compagnie. D'ailleurs, sur les supermarchés en France, les livres s'y vendent de moins en moins.
J'imagine que ça s'est remplacé par Amazon. Ouais. Mais on s'écarte un petit peu du sujet, mais la France protège son industrie culturelle de manière assez féroce, et ça s'applique pas qu'aux livres. On parle souvent de la protection avec le fenêtrage des films au cinéma. Il y a plein de choses comme ça. Le système de l'intermittence, par exemple, est fait pour fournir une force de travail à l'industrie du cinéma qui survivrait peut-être pas autrement. Et ça fonctionne. L'industrie du cinéma française est l'une des plus importantes dans le monde pour un pays de cette taille. Maintenant, la question est vaste. Pour ce sujet-là qui nous occupe aujourd'hui, de la question des 3 euros, je ne sais pas. On notera d'ailleurs que la loi précédente, elle a été passée en 2014, celle qui obligeait à facturer, mais sans mettre de minimum. Il a quand même fallu 8 ans pour la mettre à jour, ce qui montre à quel point l'administration est parfois...
Oui, ce qui est toujours très long, mais en tout cas, pour ce dossier, affaire à suivre, parce que tout va être question du décret d'application. Et comment est-ce que les grosses plateformes vont certainement trouver une faille dans le texte?
Encore. Mais sur le principe, t'es plutôt pour ou plutôt contre, toi? Ou peut-être que t'as pas d'avis, mais...
Alors moi, j'aurais préféré que la librairie se batte pour faire baisser les tarifs de la Poste et pour arriver à une mesure plus en faveur des consommateurs, qui est d'aligner un peu les frais de livraison, ou en tout cas mettre des frais de livraison, mais peut-être à 1 euro, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est quand même dommage.
Pourquoi est-ce que la Poste devrait porter le fardeau de la puissance financière d'Amazon, finalement? Parce que c'est ça, Amazon.
Qui continue à facturer plein pot à Amazon, qui donne des tarifs préférentiels aux libraires indépendants.
Qui va compenser ces tarifs préférentiels? Parce que s'il livre à perte pour les libraires indépendants, est-ce que c'est pas l'État qui finalement va devoir...
Ce sera soit du côté de la Poste, soit du côté de l'État de trouver des mécanismes de compensation. Après, on pourrait se dire, est-ce que le volume d'envoi de livres par les libraires indépendants représente une masse, une somme aussi phénoménale que ça.
Qui ferait que ça influencerait, oui, peut-être pas.
Ouais. Que ça mettrait en péril la Poste. Je sais pas. Je suis pas sûre. Mais je comprends que les gens ne soient pas contents, mais voilà, c'est un dossier très compliqué.
Bon, on continue avec un autre sujet qui est en fait deux sujets que j'ai réunis. Un article assez intéressant je voulais préciser que c'est un article de The Verge, de Russell Brundom, et ça m'a fait penser que j'ai pas précisé que j'ai dit c'est Chloé Wattier qui est avec nous, mais Chloé Wattier du Figaro. Qui nous rejoint donc 20 minutes après le début de l'émission. je complète ta présentation. Donc, il y avait un article de Russell Brundom qui s'appelle « How platforms turn boring », qui parle de TikTok et Instagram et de la manière dont ils sont devenus un petit peu chiants. Ils se sont éloignés de leur ethos de lancement. Et en même temps, il y a un article de Numérama. C'est Orgate qui l'a écrit. Oui, c'est ça, c'est Orgate, qui parle de Biril et qui estime que Biril devient assez vite un peu chiant. Alors, je vais parler des deux dans une seconde, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de les mettre en parallèle et de mentionner entre-temps que TikTok Now est une copie de Biril. Tout le monde est en train de copier Biril, que ce soit TikTok ou Instagram ou Meta, qui copie tout le monde de toute façon. Et TikTok Now fonctionne très, très bien. Il a été lancé le 18 septembre et il est déjà dans le top 10 des applications de dizaines de pays, etc., etc. Alors, les deux choses en question, Biril, vous vous souvenez, c'est cette application hyper populaire qui a été lancée il y a un bon moment, mais qui a gagné en popularité depuis, je dirais, un an, qui propose à ses utilisateurs de, évidemment, comme toutes les applications de réseaux sociaux, de se faire un réseau d'amis, donc de se connecter avec ses amis, et ensuite de prendre une photo tous en même temps. On a 2 minutes pour prendre la photo, à un moment un petit peu aléatoire de la journée, et vous prenez votre photo, vous la postez avec les deux caméras, donc là, ce qu'il y a en face de vous et la caméra selfie. Et donc, vous voyez ce que sont en train de faire vos amis à ce moment-là précis. Bien sûr, il est possible de poster une photo plus tard, qui s'appelle un late, parce qu'ils se sont rendus compte que si on devait se limiter vraiment à ces 2 minutes-là, bah, personne enfin, il y avait peu de gens qui pouvaient le faire pile à ce moment-là. Mais le principe est celui-là. Et c'est donc un principe qui est très différent des applications de réseaux sociaux habituelles, comme Instagram ou TikTok, parce que là, l'idée n'est pas d'avoir une multiplicité des contenus, une multitude de contenus, mais c'est justement de faire dans la retenue. Et l'article de The Verge dont je parlais parle de ces réseaux Instagram et TikTok en disant qu'au bout d'un moment, ces réseaux-là, par leur abondance de contenu, finissent par passer du mauvais côté du bootleg ratio. C'est quoi le bootleg ratio, selon l'article? C'est le ratio de contenu original, fidèle au style du réseau social en question, par rapport au contenu qui est reposté d'ailleurs. Et tous les réseaux sociaux pour eux, enfin pour Russell Brandon, en particulier Instagram et TikTok, finissent par, à un moment, avoir moins de contenu original qui a fait le succès de la plateforme et a commencé à avoir beaucoup de contenu qui est reposté d'ailleurs. Alors, ce n'est pas que du contenu qui est reposté exactement tel quel, mais ça peut être du contenu qui est créé pour la plateforme et pour promouvoir autre chose. On a beaucoup, par exemple, de podcasts qui vont mettre du contenu sur Instagram avec une quote, une citation de l'émission comme illustration. Bon, bah ça, ce n'est pas du contenu d'Instagram, quoi. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas ce pourquoi a été conçu le truc. Il y a beaucoup de citations, d'inspirations aussi, des gens qui font de plus en plus de contenu comme ça. Et donc, ça fait perdre en qualité le réseau social Instagram, en l'occurrence, ou TikTok. TikTok commence à y arriver un tout petit peu aussi. On commence à avoir des choses qui ne sont plus les trucs vraiment marrants, sympas de TikTok. Et un exemple que moi, j'ai constaté également sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui font des réactions sur des segments de comédiens de stand-up qui font donc, qui extraient, on va dire, une minute, une blague d'une minute, et ils vont les extraire et mettre genre une petite réaction à cette blague, qui est généralement très drôle, mais qui n'est pas du tout du contenu qu'ils ont créé eux-mêmes, mais ça leur permet de rajouter plein de contenu. Et donc, en parallèle de ça, il y a Biril, qui... Alors, l'article de Numérama, je trouve, va un petit peu vite en besogne en disant...
Je trouve aussi.
Après l'hype, le titre, c'est « Après l'hype, Biril se vide de ses utilisateurs ». Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Horrorgate.
Moi non plus, parce que les chiffres, quand même, ne montrent pas ça. Hein.
Pas du tout, oui.
Parce que, je t'interromps, mais quand je suis allée voir, parce que moi aussi, en fait, ça m'a un peu étonnée, je me dis « Tiens... est-ce qu'effectivement on voit une chute des installations de Biril ?» j'ai regardé sur Apani et en fait, c'est toujours numéro un des téléchargements de réseaux sociaux aux États-Unis et en France. Après, téléchargement n'est pas utilisation. Donc, on peut télécharger à blinde une application et puis se rendre compte qu'en fait, c'est un peu nul et la désinstaller 3 jours après. Ça, je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait. Ou alors, juste même pas la désinstaller, juste la laisser mourir quelque part dans la mémoire de son téléphone. Mais voilà, en fait, j'ai trouvé... En fait, c'est juste sur ce papier, il me manquait peut-être juste des données chiffrées sur comme quoi, effectivement, il y aurait vraiment une chute de l'utilisation.
Je pense que c'est pas le cas, hein. Clairement, il n'y a pas de chute de l'utilité. Enfin, données chiffrées, en tout cas, on n'en a pas. Mais par contre, le sentiment que relaye Horrorgate, je peux le comprendre. Et ce qui est intéressant à mettre en parallèle de l'histoire avec Instagram et TikTok, c'est que justement sur Biril, ce que dit Aurore, c'est sympa, mais on en a vite fait le tour. Et puis surtout, au bout d'un moment, d'une part, on en a vite fait le tour. Et puis, comme il n'y a pas cette multitude de contenus, on finit par s'en lasser et on finit par ne pas avoir cette abondance qui nous fait revenir systématiquement. Et Biril est une application qui est mono-utilisation. C'est vraiment poster vos trucs, vous voyez les birilles de vos amis, et voilà, dans les deux minutes que vous avez posté, et c'est terminé. Et c'est justement, alors c'était sa force pour se démarquer, et c'est sa force pour se démarquer des réseaux sociaux habituels, mais ce qu'elle dit, c'est que c'est en même temps une faiblesse, et que du coup, moi ce que j'en retiens, c'est un petit peu, il n'y a pas de solution, parce que sur les réseaux sociaux, on se plaint parce qu'il y a trop de choses et donc ça amène des effets pervers. Et sur Biril, j'avoue, moi, ça fait des mois que j'utilise Biril et je commence à ressentir un petit peu, ça a fait écho aussi ce qui était dans l'article, à ce que je ressens. C'est un petit peu, oui, bon, ok, bah, j'ai posté mes trucs, je les poste tous les jours parce que voilà, c'est un petit peu... on est les quelques privilégiés à l'utiliser, il y a peu de gens qui l'utilisent, mais... Enfin, peu de gens qui l'utilisent dans mes cercles d'amis, mais... Je ne suis pas sûr que je continuerai pendant très longtemps.
Leur gros risque, Biril, c'est d'être ce qu'on appelle un one-hit wonder, donc c'est-à-dire une application sur laquelle tout le monde s'affole pendant quelques mois et qui ensuite retombe dans l'oubli le plus total. Clubhouse, on pense à toi, par exemple, ou même sur des applications, je me souviens de Yo, l'application, tout le monde s'est excité pendant deux semaines dessus. Je pense
c'est
que
une application où tu pouvais juste envoyer Yo, tu pouvais faire que ça.
Voilà. Après, il y avait aussi des applications comme, je crois que c'était Whispers, où on pouvait du coup envoyer des messages secrets pour partager des choses, mais sans dire qui était derrière. Bref, on en a quand même une belle liste. Et donc, BeReal, c'est vrai que c'est leur gros risque, c'est que si leur proposition se résume juste à ça, c'est qu'on passe un peu à autre chose, d'autant que ce soit TikTok, que ce soit Snap ou que ce soit Instagram, ils sont tous sur le point de lancer la même fonctionnalité que BeReal, donc c'est-à-dire l'envoi de photos dans la journée. On reçoit une notification, prends une photo de ce que tu es en train de faire là, maintenant, tout de suite. Ils sont tous en train de le copier et ouais. TikTok l'a lancé il y a la semaine dernière, je crois, et les premiers chiffres montrent que ça y est, en fait, là, ils sont déjà très, très hauts sur les téléchargements. Donc, ça risque malheureusement, ça, c'est une tactique qu'on connaît très bien dans la Silicon Valley, qui est celle de la photocopieuse.
Ça fait penser aux stories de Snapchat qui se sont retrouvées absolument partout.
Absolument partout. Comme les salons audio de Clubhouse, tout le monde l'a fait. Personne ne les utilise, ou presque.
j'en vois sur Twitter de temps en temps.
C'est vraiment les happy few qui l'utilisent. Ouais. En même temps, on a tué Clubhouse au passage. C'est vraiment la stratégie de la photocopieuse et aussi de la photocopieuse tueuse.
ça ferait un bon film d'horreur des années 80.
La photocopieuse tueuse, voilà. On met fin à BeReal en copiant sa fonctionnalité. Il n'y a plus besoin de le télécharger. Voilà, fin de l'histoire. Je ne leur souhaite pas ce destin, mais c'est quand même le risque, le risque qui est pris. Et après, je reviens sur ce que tu disais sur les applications sociales sur lesquelles il y aurait trop de contenu. Alors, en défense des créateurs, les créateurs ne sont pas Shiva. Les créateurs ne peuvent pas faire des contenus spécifiques pour toutes les plateformes de la planète. C'est juste pas possible. Ils ne peuvent pas faire du contenu exclusivement pour YouTube et un contenu pensé spécifiquement pour TikTok et un contenu pensé expressément sur Instagram qui seraient tous différents, avec des sujets très différents. C'est juste pas possible. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait du recyclage à droite à gauche, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort, quoi. Sauf à avoir des équipes pléthoriques derrière soi pour créer du contenu vraiment pensé, mais même les marques ne le font pas parce que ça coûterait trop cher de faire du contenu original pour tous. Ce n'est pas possible. Donc je ne comprends pas trop en fait cette critique, parce que effectivement, quand un nouveau réseau se lance, il va y avoir soudainement de la créativité autour de ce réseau là mais après ça va se normaliser parce que tu vas gagner peut-être un tout petit peu d'argent ou quoi sur un nouveau réseau, mais en fait si tu es vraiment un créateur de contenu professionnel, tu es obligé de mutualiser tout ce que tu fais.
C'est certain. Et je crois que l'analyse n'est pas orientée vers la création de contenu, mais vers la consommation et l'identité des réseaux. Et ce qu'il dit, c'est quand un réseau finalement devient super populaire, forcément, tu vas avoir des gens qui ne sont pas, entre guillemets, natifs de ce réseau, qui vont essayer d'exploiter cette popularité pour avoir de l'exposition à leur création, à leur travail, ou simplement du cloud, quoi. Et du coup, ils vont faire des choses qui ne sont pas en phase avec l'identité du réseau en question. Et j'ai du mal à lui donner tort. Hein. Quand on voit ce qu'est devenu Instagram, c'est vrai que bah, c'était un réseau très particulier à son lancement et pendant quelques années. Et je ne crois pas que ça soit dans ce cas précis la faute de Facebook. C'est juste que Instagram est devenu tellement populaire. Alors, c'est peut-être parce que Facebook l'a rendu encore plus populaire qu'il ne l'était, mais c'est normal. À partir du moment où le réseau est hyper populaire, tu vas avoir des gens qui vont venir sur le réseau parce que c'est là que les gens sont. Pareil avec TikTok. Mais de l'autre côté, quand tu as Biril qui est hyper restrictif, on va dire, et encore une fois, c'est pas que l'article en question, mais moi aussi, je le ressens un petit peu, on va dire, bah oui, c'est chiant parce qu'il n'y a pas... Donc, il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de bonne solution pour qu'un réseau...
Il n'y a pas de bonne solution. Après, qui, au final, gagne le plus d'argent dans cette histoire, c'est quand même les applications où il y a un peu de tout. voilà, c'est... Parce que même si, voilà, on peut se plaindre, genre, ah, sur Instagram, c'est toujours... C'est plus que c'était. Bon, n'empêche que l'utilisation est toujours, en tout cas pour le moment, toujours présente. Pareil sur TikTok, ça marche hyper bien. Pareil sur YouTube, parce qu'on pourrait dire pareil sur YouTube. Sur YouTube, il y a des modes.
C'est sûr, ouais.
Tout le monde finit par faire exactement la même chose. Bon, bah, YouTube fonctionne du feu de Dieu. Donc voilà, même s'il peut y avoir une lassitude dans l'usage, voilà.
C'est marrant que tu prennes l'exemple de YouTube, parce que je trouve que YouTube, on peut le... techniquement, on pourrait faire ça partout, mais on peut le faire une curation sur YouTube de ce qu'on veut avoir, et je trouve que ça marche plutôt bien. Peut-être que c'est parce que YouTube est moins intrusif en te proposant des trucs qui sont en dehors de ton centre d'intérêt à la base, et peut-être qu'il y a un peu que la pub est intégrée aux émissions, et moi j'ai YouTube Premium, donc j'ai pas les pubs, alors que sur Instagram, tu as beaucoup de contenu, et sur TikTok un petit peu pareil, t'as beaucoup de contenu et t'as l'impression que c'est pas ce que tu veux forcément, surtout sur Instagram, et il y a de la pub. Non.
Alors si tu as cette sensation-là sur TikTok, c'est que tu n'utilises pas assez. Parce que TikTok, au bout d'un moment, ça devient juste une machine redoutable. Alors, propose juste ce que tu veux.
J'ai énormément... Non, je devrais peut-être reformuler. Les trucs comme les extraits de comédiens, tu sais, de stand-up, ça me fait marrer. C'est des trucs que j'aime beaucoup et que je regarde. Mais c'est juste que c'est des trucs qui sont pas... qui sont, je sais pas, qui sont paresseux ou qui sont...
Les vidéos react, mais après, tu les as aussi sur YouTube. Hein.
C'est vrai que les react, il y en a sur YouTube aussi. Ouais.
Ah, mais il y en a plein. Moi, j'en ai plein de react sur de la musique. Cette chanteuse lyrique réagit à cette chanson métal.
Ouais.
Et voilà, et c'est surjoué. Ou alors les réactions aux séries. Enfin, franchement, le react, c'est vraiment le format le plus fainéant du monde. Et y en a partout.
Et ça marche, ça marche. C'est pour ça que...
Moi, j'étais tombée sur un gars qui était absolument incroyable. Je crois que c'était un Américain qui découvre les chansons françaises des années 80 et qui fait qui avait des tonnes de vidéos sur Je découvre Indochine, Je découvre Mylène Farmer, Je découvre Bananarama. Et c'est à chaque fois, c'est surjoué. C'est genre... incroyable, la guitare, ce clavier. Et on regardait ça un peu avec mon mec, on se disait, mais en fait, il fait juste de décrire la chanson, quoi. Mais c'est juste qu'il met tellement d'emphase que ça fait 5 millions de vues à chaque fois.
Écoute, je pense que quand on découvre Indochine pour la première fois, on ne peut pas rester de marbre, forcément.
Mais surtout Mylène Farmer, on ne peut pas rester de marbre devant
Mylène. Un autre sujet que je voulais évoquer aussi, c'est The Follower. Est-ce que tu sais ce que c'est que The Follower ?
Absolument pas. Éclaire-moi long terme.
J'arrive avec ma petite bougie et je vais ajouter de la lumière à ta lanterne. Non, ça ne marche pas. The Follower, en fait, c'est un projet qui a été construit en quelque chose comme un mois par un développeur qui s'appelle Monsieur De Pourter, et il est peut-être néo-zélandais, qu'est-ce que je raconte Netherlands, comme on dit en français, la Hollande, peut-être hollandais ou belge, néerlandais peut-être ou belge, Dries De Pourter. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a utilisé des flux de caméras publiques, disponibles publiquement de caméras dans la rue, et il a réussi, par analyse, par intelligence artificielle évidemment, à retrouver des personnes qui s'étaient prises en photo pour faire leurs photos sur Instagram, et il les a retrouvées dans ces flux de caméras publiques. C'est hyper impressionnant. Il a donc pris quelques photos, il prend quelques photos d'influenceurs ou influenceuses Instagram qui sont populaires, et avec programmation intelligence artificielle, plic sur le clavier, enhance, et ben ils retrouvent des caméras, mais genre caméras de surveillance de police, quoi, qui sont pas des caméras de essentiellement du réseau, comment il s'appelle, Open Camera, je crois, qui va juste les retrouver à cet endroit-là, à l'heure où elles y étaient. Et puis c'est marrant parce que tu vas voir les personnes qui font plusieurs essais différents, tu sais, de la photo Instagram super naturelle, genre « Ah, c'est cool, on fait machin, alors attends, on va prendre comme ça, non, attends, mets-toi plutôt comme ça, mets-toi ici », bref, c'est assez rigolo. Mais c'est hyper impressionnant de voir à quel point on peut retrouver des trucs à partir d'une photo qu'on va voir quelque part, on va retrouver les personnes en question dans la rue, quoi, grâce aux caméras de surveillance. C'est assez dingue.
Bah oui, alors ça, bon, là, je regarde en même temps l'article du New York Times. Alors évidemment, c'est extrêmement américain parce qu'aux États-Unis, la protection de la vie privée et des données personnelles est absolument inexistante. Donc, ça ne m'étonne pas qu'un artiste puisse faire ce genre de choses. En Europe, ce serait un chouïa plus compliqué. D'autant que là, on est en train de, au niveau européen, on est en train d'essayer de se doter d'une régulation de la reconnaissance faciale. Donc là, les derniers débats, disons que côté Parlement européen, ils aimeraient pousser une interdiction pure et simple de la reconnaissance faciale. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera à ça, mais en tout cas, on en discute fortement. Et je trouve que ce genre de projet est hyper intéressant pour en fait que les gens réalisent que la surveillance, c'est simple, surtout si on laisse ces outils complètement se déployer sans aucune régulation et sans aucun contrôle. Parce que les vendeurs de solutions de reconnaissance faciale, évidemment, ils vont vendre monts et merveilles. Ils vont dire, c'est absolument génial, on peut retrouver, par exemple, ça va être, on le dit c'est souvent pour la police, c'est-à-dire ça va vous permettre de retrouver un suspect dans une foule. Ok, génial, ultra, ultra pratique. Mais est-ce que ça vaut le coup de scanner le visage de tous les gens qui sont dans la rue pour retrouver un suspect? Ça, c'est une première question. On va aussi vous vendre des solutions pour dire, dans les transports, on peut repérer les gens qui potentiellement pourraient créer un problème parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas normal. Ça aussi, ça, c'est plus que de la reconnaissance faciale, c'est plus de la reconnaissance de sentiments et de comportements. Donc, ce qui permettrait d'intervenir avant qu'il y ait des troubles dans les transports en commun, par exemple. En tout cas, ouais, ce projet, donc je vois en fait, c'est qu'il prend, il voit des gens qui ont pris des selfies dans des endroits publics de New York et il retrouve via les flux de caméras qui sont disponibles sur YouTube, il retrouve les gens au moment où ils ont pris cette photo dans la rue. Donc voilà. Et donc, ce qui montre, déjà qu'il y a des caméras absolument partout et que si enfin là, tu vois, ce qui est inquiétant, c'est de se dire que c'est un citoyen lambda qui a pu utiliser des outils qui normalement sont réservés aux professionnels et, on l'espère, aux forces de police pour pouvoir faire ce projet. Donc,
ce qui est encore plus inquiétant, c'est de voir qu'un programmeur tout seul avec des outils disponibles pour tout le monde ouvert, ait pu réaliser un travail de ce type-là. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont nous dire, avec raison, c'est des lieux publics, c'est des caméras comme ça, il avait peut-être la date approximative, donc peut-être qu'il a pu... Alors, il a pris 2-3 semaines de données, donc c'est pas non plus juste sur une heure qu'il a retrouvé les trucs, mais bon, c'est relativement limité. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est imaginer ce que peuvent faire des forces de l'ordre ou des États.
Ça montre que c'est possible et qu'en fait, au-delà des forces de l'ordre et des États, ça peut être aussi juste des personnes, lambda. Enfin, il faut imaginer par exemple les harceleurs en ligne, s'ils peuvent se saisir de ce genre d'outils pour pouvoir retrouver leurs victimes dans le vrai monde.
Par exemple.
Et dire qu'en fait, elle se trouve à tel endroit, qu'elle fréquente tel café, qu'elle va tous les jours, elle passe dans cette rue. Parce qu'on a réussi à la retrouver via les caméras de surveillance et du coup, on connaît précisément son trajet quotidien et que donc, potentiellement, on peut venir l'agresser dans la rue. Enfin, j'utilise « elle » à dessein parce que c'est souvent, malheureusement, c'est souvent des femmes qui sont victimes de ce genre de harcèlement. Donc, c'est là, en fait, qu'on voit le danger. Et Surtout parce qu'aux États-Unis, je le répète, il n'y a pas de loi de protection des données personnelles au niveau fédéral, et ce qui fait que toutes ces dérives sont possibles.
Alors, juste pour préciser, il utilise EarthCam, c'est pas OpenCamera, c'est EarthCam. Et sur le site de EarthCam, il y a essentiellement des caméras aux États-Unis, c'est vrai. Il y a quand même un certain nombre de caméras dans d'autres pays du monde, y compris en Europe. Et là encore, ça a l'air d'être souvent des caméras plutôt panoramiques avec des paysages assez vastes. C'est difficile de retrouver une personne dedans. Mais il y en a quelques-unes. Je suis sur la caméra de Abbey Road maintenant, par exemple. Et pendant que je regardais, pendant que tu parlais, il y avait des gens qui se sont arrêtés sur le passage piéton de Abbey Road pour se prendre en photo, tu vois, juste maintenant. Ouais. Donc ça, c'est possible aussi. Ça, c'est des caméras qui sont peut-être... Alors, on va dire c'est des lieux publics, des lieux dans lesquels on peut imaginer qu'il y aura des caméras de tout... Excusez-moi, j'avale, ça me fait très très mal à la gorge, donc j'ai du mal à parler. Il y a encore des gens qui sont en train de se prendre en photo, là, à Abbey Road. Mais on pourrait imaginer que c'est dans ce contexte, c'est pas si surprenant que ça soit possible pour telle et telle raison. Je crois que c'est surtout que ça montre à quel point, oui, quelqu'un qui se dédie un petit peu à ce travail, ou une organisation de plus grande ampleur, ça pourrait donner quelque chose d'encore plus inquiétant, quoi.
Tout à fait.
Eh bien, écoutez, voilà pour les sujets essentiels qu'on voulait couvrir. Je vais juste dire merci aux Patriotes encore. Juste un petit mot pour les remercier et pour vous rappeler que vous pouvez venir sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission, pour soutenir mon travail.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Et on continue avec le reste de l'actu. Une nouvelle inattendue qui nous vient de Russie. C'est le reste de l'actu un petit peu plus rapide. Edward Snowden a... Alors, je ne sais pas s'il faut dire a obtenu ou on lui a attribué la nationalité russe hier. C'était hier, je crois.
Ouais, c'était hier.
C'est pas très clair si c'est parce qu'il l'a demandé ou si Vladimir Poutine... tu es sûr qu'il l'a demandé? Parce que j'avais l'impression...
C'est ce que lui dit.
D'accord,
lui dit.
Okay. Il a réagi déjà? J'avais pas vu qu'il avait réagi.
Il a réagi sur son compte Twitter. Il a dit que c'est lui qui avait demandé la nationalité russe, notamment parce que il a des enfants. Il a eu deux enfants qui sont nés en Russie et qui sont donc de nationalité russe. Et donc, lui et sa femme disent « on ne veut pas être... » prendre le risque d'être séparés de nos enfants.
Bien sûr.
Donc, on a demandé la nationalité russe pour être... Ce qui peut se comprendre. Alors après, évidemment, il y a un timing.
Le timing est quand même, particulièrement...
Le timing est particulièrement bien choisi. Mais après, est-ce que c'est vraiment une surprise? Bon, il avait déjà le statut de résident permanent en Russie. Donc, je veux dire, c'était le step d'après. Quoi. Pour lui, c'était de demander... de demander la nationalité. Après, voilà, c'est juste le timing, avec les tensions de la guerre en Ukraine, les tensions entre la Russie et le monde occidental. Voilà, il y a un petit côté, il est passé vraiment de notre côté.
C'est ça. Et puis, il y a aussi la question de son extradition, évidemment, et de sa citoyenneté américaine, qui, du coup, est-ce que les États-Unis, maintenant qu'il a une autre citoyenneté, ne vont pas lui retirer son passeport américain? Il faut quand même se mentionner que le pauvre Snowden, vraiment, moi, je dis le pauvre parce qu'il a fait un travail qui était vraiment minutieux et consciencieux et qui a montré à quel point il était important dans les années qui ont suivi ces révélations. Et bon, il vit encore les conséquences de son action qui était assez héroïque, quoi.
Bah ouais, malheureusement, c'est, on peut aussi penser à Julian Assange. Hein, c'est malheureusement le destin de beaucoup de lanceurs d'alerte, surtout quand ils s'attaquent des secrets d'État. Quoi. C'est,
ouais,
ça se termine malheureusement souvent comme ça.
Sur Julian Assange, je suis plus mitigé. Je pense qu'il y a évidemment des choses importantes qui ont été faites par Wikileaks, mais là où j'admire vraiment Snowden, c'est qu'il a récupéré énormément de documents qu'il n'a pas publié sans les faire passer en revue par des journalistes consciencieux. Mmh. Tu vois, oui. Il a vraiment fait... C'est pour ça que ça me frustre d'autant plus la réaction des États-Unis par rapport à lui. Alors évidemment, c'est compliqué de dire pour un leak aussi énorme par rapport à des secrets d'État, de dire « Ah bah c'est bon, en fait, on te pardonne, tout va bien ». Je comprends, ça pourrait encourager d'autres dans ce domaine, mais il avait été tellement sérieux dans son travail pour s'assurer de ne mettre en danger personne et simplement de révéler les problématiques sérieuses que posaient les choses dont il a parlé, que, tu vois, pour moi, Snowden, il y a beaucoup moins de controverses et de questions à se poser sur la nature de son action que quelqu'un comme Julian Assange, qui a été beaucoup plus brouillon, on va dire, je trouve.
Ouais, mais bon, n'empêche que voilà, maintenant Snowden... En fait, quand j'ai vu la news hier soir, je me suis dit, bon, j'ai l'impression d'être revenu pendant la guerre froide. Où voilà, on fait des prises chez l'adversaire. Donc là voilà, Snowden maintenant, il est côté russe.
Ouais. On peut imaginer qu'il a passé un certain temps devant les autorités russes qui lui ont posé des questions pointues. L'Apple Watch mesure les écarts, les différences de température pour estimer les périodes d'ovulation. On le savait, elle a été présentée, c'est l'Apple Watch série 8. Eh bien, on commence à avoir quelques exemples d'écarts de température mesurés qui pourraient laisser indiquer qu'il y a une infection d'une nature diverse. Enfin, ça peut être le Covid ou autre chose. Et donc, c'est l'une des questions qu'on se posait par rapport à ce capteur de température. Est-ce que ça peut être utilisé pour autre chose que la santé des femmes ? Est-ce que ça peut être utilisé pour prévenir, en tout cas indiquer, ah là il y a un truc un petit peu température depuis 2 jours, peut-être que vous devriez vous faire tester. Ben, les premiers indices pourraient montrer que c'est pas totalement impossible. Alors peut-être qu'Apple a été très prudent à ce niveau et qu'ils l'introduiront plus tard, mais moi je pense que ça va arriver plus tard l'année prochaine parce que c'est un outil hyper pratique dont ils ne pourront pas ne pas exploiter, je pense.
Oui, et puis même plus généralement, signaler aux gens, attention, votre température est en train de monter, peut-être que vous êtes en train de tomber malade.
C'est ça.
Donc, soyez vigilants et, je ne sais pas, portez un masque pour éviter de contaminer les gens.
Portez un masque, faites-vous tester. Ce qui est difficile, c'est que...
Si c'est un Covid, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose.
Oui, tu as raison. Tu veux dire, même si ce n'est pas le Covid, simplement, vous êtes peut-être malade, portez un masque juste pour ne pas contaminer les gens. Quoi. Ouais. Même si on n'a pas forcément besoin de se faire tester ou qu'on n'a pas de symptômes. Et d'ailleurs, Apple, ils ont augmenté les prix des appareils. Ils vont augmenter aussi les prix dans les App Store à partir de début octobre. Ouais, en Europe.
La chute de l'euro par rapport au dollar, c'est uniquement pour ça. Hein. C'est à cause des effets de change. Du coup, on rehausse les prix européens pour conserver les mêmes marges. Voilà.
Et c'est pas anecdotique. Hein. Le prix de 99 centimes, par exemple, va passer à 1,19 €. C'est une hausse de 20% quand même. C'est pas rien du tout. Quoi. Donc,
c'est pas rien.
Ouais, voilà, ça arrive. Quoi d'autre ? Meta, vous vous souvenez, certains ont été étonnés de ce chiffre d'ailleurs que je donnais la semaine dernière. Meta a perdu 60% de sa valeur boursière ces derniers mois. Et certains s'étaient étonnés. C'était dû à plein de facteurs, hein, mais le fait que les gens ne croient pas au métavers de Zuckerberg, le fait qu'il y ait une chute de la croissance du nombre d'abonnés, voire même qu'ils aient perdu Je ne sais plus si c'est uniquement Netflix ou Meta aussi qui avait perdu des abonnés à un moment.
Ils avaient perdu un petit peu aux États-Unis sur un trimestre.
C'est ça, voilà. C'était aux États-Unis en particulier. Et donc, tout ça fait que les gens croient moins à la croissance de Meta, parce que n'oubliez pas que le prix de l'action est souvent basé sur une perspective de croissance, plus qu'une santé à un moment M ou T. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Meta a commencé à utiliser ce chiffre de chute de 60% de la valeur boursière pour argumenter avec les autorités de régulation de la concurrence qu'en fait, ils ne sont pas si forts que ça, qu'il n'y a pas vraiment de question de monopole. D'une certaine manière, ça se tient un petit peu. Hein. Il faudra voir les chiffres d'utilisation quotidienne et mensuelle. Mais du coup, ils ont commencé à dire « Ah mais non, regardez, 60% de chute !» C'est marrant. Moi, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment... Quoi qu'il arrive, ils arrivent à en tirer le meilleur, tu vois.
C'est ça qui est drôle. Et tu vois, je pense là notamment sur la concurrence, la mise en place en Europe du Digital Market Act qui arrivera en début 2023. Et en fait, pour être touché par cette régulation, il faut être au-dessus de certains seuils, et donc notamment des seuils de valorisation boursière ou des seuils de chiffre d'affaires. Et oui, donc on sentait bien venir que Meta va argumenter en disant « J'en ai regardé, on est en dessous des seuils, on est sur le point d'aller en dessous des seuils, donc on n'est pas concerné par votre régulation. » C'est vrai que si ça continue à chuter d'ici là. Donc ça, ce sera observé. Mais bon, ça ne m'étonne pas qu'ils utilisent cet argument pour dire « Regardez, on n'est pas si dominant que ça. Regardez, notre valorisation boursière a été divisée en deux. » Donc
c'est drôle, oui. On parlait aussi de la question de la création de comment dire, l'utilisation de musique. Je disais que dans les podcasts, il y a beaucoup de gens qui utilisent de la musique qui n'est pas pour laquelle ils n'ont pas les droits spécifiquement, et que ça risquait de devenir un problème à un moment, comme ça l'a été sur YouTube il y a un moment et sur Twitch il n'y a pas si longtemps. Et bien YouTube a mis en place en fait un catalogue qui s'appelle Creator Music. Ils avaient déjà un truc qui était beaucoup plus modeste, mais là, c'est carrément un énorme catalogue. Et je crois qu'on peut même y insérer... Enfin, les créateurs de musique peuvent y ajouter de la musique ou proposer de la musique, si je ne me trompe pas. Mais du coup, c'est une solution qui est finalement YouTube qui trouve une solution pour proposer de la musique à ses créateurs en court-circuitant l'industrie de la musique, presque. Et je me demande si les efforts de l'industrie de la musique... je saute un petit peu les étapes, peut-être, mais est-ce que ça pourrait pas se développer comme un moyen de découvrir ou d'écouter de la musique plus important à l'avenir? Et vous allez me dire, ah mais non, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas la musique sur le catalogue de créateurs de YouTube qui va faire quelque chose. Bah, regardez ce qu'a fait TikTok. Il y a plein de musiques de morceaux qui sont devenus hyper viraux, rien qu'en passant par TikTok. Alors oui, on n'y est pas du tout encore. La musique se découvre certainement ailleurs que sur YouTube, mais je ne sais pas.
Après, je précise juste en fait cette nouveauté. Aujourd'hui sur YouTube, si vous utilisez une musique qui est protégée par des droits, avant, c'était simple, votre vidéo, elle était supprimée. Là, maintenant, c'est quand même pas mal d'années que votre vidéo n'est pas supprimée. Par contre, toute la monétisation autour de cette vidéo part dans la poche de l'ayant droit. Donc, ce qui fait que vous n'étiez absolument pas incité à utiliser de la musique protégée parce que tout l'argent, vous ne gagnez plus d'argent. Vous ne gagnez pas du tout d'argent sur cette vidéo. Là, ce que fait en fait YouTube, c'est de dire, OK, alors maintenant, on va vous autoriser à utiliser de la musique qui est protégée. De deux manières. Soit vous payez tout de suite, vous payez un droit à utiliser cette musique. Donc, par exemple, vous payez 25 euros pour avoir le droit d'utiliser, je ne sais pas, une musique de BTS sur votre vidéo. Voilà, c'est 25 euros, c'est réglé, ça va sur le compte en banque de Universal Music et vous avez le droit d'utiliser cette musique. Ou alors, soit vous faites un paiement immédiat, soit vous partagez les revenus publicitaires entre vous et l'ayant droit musical. Et l'idée derrière tout ça, c'est de se dire que ça va inciter les créateurs de contenu à utiliser de la musique sous licence, ce qui va du coup, in fine, augmenter les revenus de l'industrie de la musique.
À part à condition qu'ils participent à ce programme.
Oui, et ils ont signé quand même avec beaucoup de détenteurs de droits.
Ah, c'est plus vaste que ce que j'avais compris, catalogues. D'accord.
Ah oui, non, c'est très très vaste. Hein. Ils ont signé vraiment, il est très gros. Et l'idée, c'est vraiment de dire, déjà, la YouTube dit ils ont reversé 6 milliards de dollars à l'industrie de la musique cette année, et que là, ils peuvent aller encore plus loin en faisant sauter en fait le verrou qui désincitait les créateurs à utiliser de la musique protégée.
Tout à fait. Et du coup, ça fait, c'est vraiment un système. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'industrie de la musique aurait pu faire un truc comme ça en travaillant avec YouTube, mais là, c'est vraiment YouTube qui a dû, au bout de 15 ans, se mettre en place ce système. Et du coup, d'une certaine manière, on donne les clés à YouTube. Alors oui, c'est pas forcément le boulot de l'industrie de la musique de le faire, mais oui et non, ils auraient pu initier ce genre de programme et ils l'ont pas du tout fait. Bon, entre parenthèses, YouTube monétise aussi les shorts maintenant. Comme vous savez, les shorts, c'est les reels, c'est les TikTok, quoi. Donc oui, il y aura beaucoup de musique, d'argent à se faire avec ce type de... Quand je disais TikTok tout à l'heure, c'est exactement de ça qu'on parle. On parlait aussi de d'images générées par des IA. Il ne se passe plus une semaine sans qu'il y ait une chose à dire là-dessus. D'une part, Getty Images et Shutterstock et d'autres ont banni l'utilisation d'images générées par IA parce que les problèmes de droit sont trop importants. Ils n'arrivent pas à se dépatouiller. Ouïa, pardon. Excusez-moi, c'est la gorge qui tient pas le coup. Ils n'arrivent pas à se dépatouiller. Enfin, ils ont une crainte des risques associés à l'utilisation d'images IA, puisque il y a plein de risques légaux qui sont associés à des images, aux images générées par IA. L'un d'entre eux, et pas des moindres, étant que ces images ont été générées sur des sets d'images disponibles publiquement, mais dont il est très difficile de ne pas autoriser l'accès, de opt-out de ce type d'utilisation précis. Et dans le même domaine, il y a une artiste new-yorkaise qui a réussi à obtenir un copyright aux US, donc, sur une BD qui a été créée entièrement avec des images générées par Midjourney, l'un de ces créateurs d'images par intelligence artificielle. Et donc, la BD entière est générée... Enfin, les images ont été générées par Midjourney. Après, il y a eu une sélection. Comme on le disait il y a quelques semaines, les requêtes pour générer ces images doivent être assez précises, etc. Mais du coup, on a un copyright qui a été attribué. Alors attention, le copyright a été attribué à l'autrice pour sa BD. Donc, les images sont un des éléments de l'œuvre. Mais il n'empêche, c'est là encore une étape. J'ai l'impression que depuis qu'on a commencé à parler depuis l'arrivée de Dali, il y a quoi, 2 mois, de Dali 2, ça s'est tellement accéléré. Chaque semaine, il y a une étape supplémentaire qui est franchie, quoi.
Là, en fait, ce que montrent ces deux actualités, c'est qu'on est encore dans un vide juridique et dans un flou juridique le plus total. Et que je pense que les juristes vont bien s'amuser avec ce dossier. Donc, pour savoir qu'est-ce qui peut être copyrighté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ça, je pense qu'on va continuer à avoir plein d'actualités là-dessus, parce que pour le moment, la loi ne fixe rien. Donc, ça sera à suivre. Mais oui, on est dans un flou.
Complètement,
à suivre.
Et c'est marrant parce que c'est un flou juridique qui a été créé par vraiment une technologie nouvelle. C'est pas parce que je pense que peut-être que certains se diront « Oh, flou juridique, voilà, il faudrait réguler, il faudrait... Que fait la police, tu vois ? Il faudrait qu'on s'y mette, quoi, et qu'on régule. » Mais clairement, là, c'est quelque chose qui n'existait pas, des questions qui se posaient même pas vraiment il y a quelques mois encore. Donc, on est à un moment où...
Mais c'est pour ça que les quelques avocats en droit numérique que je connais me disent qu'ils s'amusent énormément sur sur ce secteur, parce que ça bouge tellement tout le temps que y a toujours plein de nouvelles questions à se poser. C'est beaucoup moins plan-plan que du droit commercial ou de choses comme ça. Et le droit numérique, vous vous ennuierez jamais.
C'est clair. Deux dernières petites choses qui sont plus pour de l'information, pour comment dire, la culture numérique que pour les infos elles-mêmes. D'une part, il y a un article intéressant de Taylor Lawrence dans le Washington Post sur un forum qui devient dangereux et violent. Et c'est un forum d'incel. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que sont les incels. Mais au-delà de la question du forum qui se... comme je disais, qui commence à devenir vraiment problématique. C'est une idéologie d'extrême droite, en particulier aux États-Unis. Le terme incel, je pense qu'il faut le connaître. Incel, ça veut dire involuntary celibate. Ce qui veut dire célibat involontaire. C'est un terme qui a une histoire assez longue, mais qui, ces dernières années, est devenu une sorte d'emblème d'une... comment dire, je me perds dans mon explication du coup. C'est généralement des jeunes hommes blancs qui estiment que s'ils sont célibataires, c'est pas de leur faute, mais de la faute des femmes qui... ont été soit conditionnées, soit éduquées pour ne pas leur attribuer pour ne pas s'intéresser à eux. Et ça fait peut-être sourire, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est quelque chose qui est un mouvement qui s'aligne peut-être pas complètement sur cette idée d'involuntary celibate, mais qui à des idées qui tournent complètement autour, qui sont évidemment extrêmement sexistes, extrêmement racistes, de suprématie blanche, comme souvent dans ces milieux-là. Et donc, le terme incel commence à être un terme qu'on ne peut pas vraiment, qu'on voit un petit peu partout, qu'on ne peut pas vraiment ignorer. Pardon, je t'entendais réagir juste avant.
Non, pardon, il y avait du bruit autour de moi. Non, mais j'allais dire, je pouvais faire la définition d'incel si tu voulais.
Ah bah vas-y, tu le feras peut-être.
Non, mais c'est bon, tu l'as très bien
d'accord,
fait.
D'accord, très bien. Et donc, ce qui est préoccupant, c'est que c'est en train de devenir une tendance qui s'inscrit dans un mouvement plus large d'extrême droite et qui se radicalise. Et donc, on a sur ces forums, dans ces mouvances, des gens qui sont rendus coupables de tueries de masse, de menaces de harcèlement, etc. etc. Donc voilà, c'est pas juste une petite blague genre « Ah, les incels, ils sont célibataires. »
Oui, ils sont juste frustrés.
Voilà, ils sont juste frustrés.
Ça engendre quand même des violences dans la vraie vie.
C'est ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Et l'autre truc que je voulais mentionner, c'est le moyen qu'utilisent les anti-vax et les conspirationnistes pour éviter de se faire repérer par les algorithmes sur les réseaux sociaux. Ils n'utilisent plus des termes en toutes lettres comme vaccin ou Covid ou ce genre de choses. Ils utilisent des emojis, et notamment l'emoji carotte, pour parler de vaccins ou de
vaccins. C'est des stratégies qui sont utilisées quand même de longue date par tous les mouvements un peu complotistes ou même tout simplement racistes, par exemple. C'est d'utiliser des mots à la place de ceux qui seront flagués automatiquement par les outils de modération automatique. Donc, par exemple, un exemple qui est très connu en France, c'est on va pas écrire, par exemple, arabe, on va écrire arbre. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est aussi beaucoup utilisé aux États-Unis par par toute la mouvance anti-vaccin, mais aussi toute la mouvance complotiste. C'est on utilise des mots à la place des autres et seuls les initiés comprennent ce qu'ils veulent dire réellement. Comme ça, on arrive à contourner la modération. Et ce qui fait que, en fait, c'est très, très compliqué aussi maintenant depuis pas mal d'années pour les réseaux sociaux de se mettre à la page, de savoir, c'est ce mot totalement anodin ou cette emoji totalement anodin, dans un contexte bien particulier, il veut dire complètement autre chose. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que la modération est si dure, la modération automatique a tant de ratés. C'est parce que toutes ces astuces existent et se diffusent et sont utilisées depuis toujours, j'ai envie de dire, par ces mouvements qui ne souhaitent pas être modérés. Voilà, donc ils jouent avec les outils de la modération.
Complètement, oui. Et puis, c'est un jeu du chat et de la souris qu'on voit dans tous les domaines. C'est pas quelque chose de... C'est pas une révélation, hein, clairement. Mais c'est intéressant juste de noter l'histoire de l'emoji carotte. Je suis sûr qu'il... maintenant, en ce moment, c'est carotte. Je suis sûr qu'il sera repéré à un moment. Pour arbre, par contre, je pense que c'est difficile d'entraîner les algorithmes pour reconnaître vraiment, parce que... Pour
le coup, c'est arbre, ça, en fait, toute la subtilité.
Encore carotte, tu peux dire... Peut-être qu'un algorithme, que du machine learning, tu pourras dire dans tel contexte, pourquoi ? Encore carotte, tu le repères, tu vois. Mais arbre, c'est difficile à identifier spécifiquement, quoi.
Non, c'est pour ça que c'est très efficace.
Ouais.
C'est parce que la machine est prise... elle peut pas comprendre le contexte et voilà, du coup, les messages passent.
Donc, si vous voyez des emojis carottes dans des posts de votre grand-oncle sur Facebook, vous saurez ce que ça veut dire. Merci, Chloé, d'avoir participé avec moi à cet épisode. J'ai tenu pendant une heure.
Tu as tenu, bravo.
Sans aucun doute, grâce à l'énergie que tu as insufflée à cette émission. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on veut plus d'analyses pertinentes et judicieuse de ta part.
Alors, pour me retrouver, déjà Le Figaro version papier dans le Figaro économie, dans les pages tech et médias, sinon sur le site du figaro.fr, rubrique tech et médias, et sinon sur Twitter, @w_Chloé.
Magnifique, on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous pourriez même me trouver sur TikTok. Non, je ne poste pas sur TikTok, mais je suis pas NotePatrick sur TikTok. Ce serait intéressant de voir s'il y a des gens qui peuvent me trouver sur TikTok malgré le fait que je ne sois pas NotePatrick. Et puis, bien sûr, NotePatrick.com pour les lives, les Discords, les Patreons, patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Et du coup, vous pouvez retrouver ça là-bas et vous retrouverez tout ce que je fais sur Internet, le rendez-vous jeu, Super Laser Punch, etc., etc. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/rdvjeu pour soutenir l'émission. De ceux qui travaillent même quand ils sont malades et qu'ils ont mal à la gorge. Je vous remercie tous et toutes très chaleureusement et je vous donne rendez-vous jeudi pour le rendez-vous tech, non, le rendez-vous jeu, et mardi prochain pour le prochain rendez-vous tech si je survis jusque-là. Merci à tous, des bises et à très vite. Ciao, ciao.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.